Voilà, si cet après-midi
vous croisez un juif, il va vous dire Shana Tova, Shana Tova, bonne année, parce qu'aujourd'hui c'est le début de Rosh Hashanah, hein? Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année juive. Ça commence aujourd'hui, ça dure 2 ou 3 jours, et ça veut dire la tête, Rosh, c'est la tête de l'année, le début de l'année. Et donc, pour les Juifs, c'est très important pour eux, pour le peuple de Dieu, nos frères aînés, je dirais. Et toute la semaine, tous les jours qui ont précédé Rosh Hashanah, le matin, les gens, ils font un grand bruit. C'est le chauffard, c'est la corne du bélier. Ils sonnent ça, ils soufflent dedans, dans la maison, comme une tradition avec les enfants, à la synagogue aussi. Et donc, il y a vraiment un appel, il y a cette trompette qui sonne. Et même dans le Nouveau Testament, surtout en Apocalypse, on a ces images de la trompette qui sonne. Et cette trompette, c'est souvent le signe du jugement. Et tu sais, à la fin de chaque année, on juge notre vie. On dit, est-ce que j'étais bon, j'étais mauvais, est-ce que j'ai pris trop de poids, est-ce que je dois prendre un régime? Ça, c'est nouveau. Nous, on fait ça en janvier. On fait le bilan, on prend de bonnes résolutions. Mais là, c'est déjà intégré pendant tout un mois, le mois qui précède Rosh Hashanah, ça s'appelle le mois d'Elul. Et dans ce mois d'Elul, c'est un mois de scruter le cœur, de dire où suis-je avec toi, Dieu? Et moi, je trouve ça une bonne chose. C'est beaucoup plus que juste une nouvelle résolution. Parce que tu vois, cette corde de bélier qui sonne chaque matin. Mais ça, c'est un peu comme notre conscience. Quelquefois, ça sonne en nous, on dit « Ah, mais j'aurais pas dû, peut-être je peux améliorer mon tir. » Et donc, peut-être ils ont déjà, peut-être, bon, les frères juifs, hein, ce n'est pas pour vous, peut-être en tant que chrétien, avec le Saint-Esprit en nous, on a une trompette ambulante avec nous. Tu sais, on n'a pas besoin de Rosh Hashanah, parce que le Saint-Esprit va dire « Oh, je signale que ça, attention !» Ah, tu parles là, ce que tu es en train de dire, ça va te mener dans un mauvais chemin. Et donc, mais bon, pour les Juifs, ils ont déjà pris tout un mois pour regarder leur cœur. Et c'est un appel à la repentance. Mais tu sais, quand on parle repentance, déjà on tremble sur nos sièges avec repentance. Mais repentance, c'est tout simplement penser autrement. Penser autrement. C'est une opportunité, ce n'est pas une condamnation. La repentance, je vais répéter ça, ce n'est pas une condamnation. On ne va pas sortir ici tout flagellé, tout blessé. Oh, j'ai été condamné encore à l'église. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une opportunité d'améliorer sa vie, de mieux vivre, de penser autrement. Ah! Si seulement j'avais su, si seulement j'avais pensé autrement, ma vie aurait été beaucoup mieux. Donc ce matin, je vais vous donner, par le message, une opportunité de penser autrement. Les Juifs appellent ça Teshuvah. Teshuvah. C'est un temps de penser autrement. C'est un temps de passer à la repentance. Et donc on va vivre ce Teshuvah. Et donc eux, après tout un mois, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Au coucher du soleil. Qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir, les Juifs? Ils vont trouver de l'eau, d'accord? Ils vont trouver de l'eau, et symboliquement, ils vont aller tout près de l'eau, et ils vont vider leur poche comme ça. Ils vont faire ça. Bon, je ne peux pas vider la poche là, parce que c'est le micro. Mais ils vont vider leur poche, et ils vont dire, voilà, cette chose, ah, je ne veux pas que ça reste en moi. Tu sais, ce matin, quand je préparais le message, je pensais à quelque chose, et tu sais, on est tous un peu des garçons bêtes hein, quand on est jeune, hein, surtout les garçons, hein, peut-être les filles sont sages. Mais là, je pense à ma jeunesse, et un jour, je joue au foot avec mes amis, Bon, j'étais un fou, hein, comme tous les jeunes, j'étais pas tout chrétien à l'époque. Et un de mes amis, il avait laissé sa veste, mais c'est une super veste. C'était comme poteau, tu sais, quand tu joues au foot et tout ça. Et moi, j'avais la bonne idée, j'ai trouvé une souris morte. Quelle bonne idée, je vais mettre ça dans la poche de mon ami là. Et donc j'ai pris cette souris, c'était pas une souris verte, hein, c'était vraiment une souris morte. Hein. Et là, je l'ai mis dans la poche, et bon, tu sais, j'allais lui dire à la fin, mais j'ai oublié. Et donc là, un mois après, il m'a dit, mais Robert, tu sais, j'ai eu des histoires avec ma famille, avec ma mère. Il dit, voilà, elle est allée dans le placard un jour, c'était rempli d'asticots. Il dit, toute la maison, on a crié, on a fait venir des professionnels pour nettoyer la maison. Je dis, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vrai, ils ont trouvé ce truc dans sa poche, mais qu'est-ce que tu fais? Et tout ça, oh là 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 là. C'est une vraie histoire, ça. Et donc, moi, à l'époque, je dis, oh, c'est intéressant, je me demande comment ça a pu rentrer dans ta poche. Mais quelquefois, tu vois, ce pauvre garçon, il était victime de mon action. Et quelquefois, nos poches ne sont pas juste remplies par nos propres péchés, par nos propres erreurs. D'accord, peut-être vous mettez vous-même des souris mortes. Mais quelquefois, il y a les gens, il y a les parents, il y a les personnes dans l'autorité et tout ça. Ils foutent une souris morte dans ta poche et tu dois gérer les conséquences et ça pourrit. Et donc, c'est bien de vider des poches. Ça fait du bien de vider ses poches. Ça fait du bien. Des asticots, des trucs, tout ce que tu as dans ta poche. Et ça, c'est ça aussi la repentance, c'est de se débarrasser de toute méchanceté qu'on a dans nos poches, tout ce qu'on a accumulé. Qu'est-ce qu'on peut accumuler, hein? Moi, j'ai souvent des mouchoirs en papier dans mes poches. Hein, des serviettes que tu vas manger quelque part, moi, je ne les laisse pas sur la table, c'est pas ça. Je les trouve tous, les bleus, les jaunes, les oranges, toujours. C'est toujours, je peux garantir, tu vas chercher, non, mais je trouverai une. Ah, ça, c'est quand j'ai mangé au Château Blanc il y a 2 semaines. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du, c'est pas des bonbons, qu'est-ce que vous avez? Mais spirituellement, on peut accumuler un tas de choses, un tas de blessures. Donc ce soir, le juif, il va aller, il va trouver de l'eau et il va vider ses poches. Et il va faire une prière, mais c'est une belle prière, c'est tiré de Michée. Et je vais partager ça avec vous maintenant. C'est Michée, hein, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas grave si vous n'avez pas votre Bible, je vais le lire, mais si vous voulez suivre, c'est Michée 7. Et ça commence, c'est vraiment la dernière parole de Michée. Michée chapitre 7 et verset 18. Et il va être là, il faut imaginer. Vous pouvez même le faire ce soir. Hein. Je me demande si je vais aller au Château Blanc ce soir, là où il y a de l'eau, et si je vais vider mes poches. Hein. Et voilà, il va vider ses poches en lisant ces 3 versets. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours. C'est citation d'Exode 34, lent à la colère, riche en bienveillance, lent à la colère. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Et ce mot bienveillance, c'est le mot hesed, ça veut dire un amour indestructible. C'est ça Dieu. Si je dis, mais qu'est-ce que c'est l'essence de Dieu? L'essence même de Dieu, c'est Hesed. C'est un amour indestructible. C'est une alliance. Il se donne à toi comme un être cher. Peut-être pour un homme, il cherche une épouse fidèle qui va l'aimer. Advienne que pourra. Je t'aime. Et si vous pouvez multiplier ça à l'infini, cette recherche de fidélité, de loyauté, c'est ça Dieu. Et cette fidélité, cette loyauté, ça se manifeste dans la personne de Jésus. Toute cette loyauté, toute cette hesed, cette bienveillance est devenue un homme, Jésus-Christ. qui est venu dans toute sa splendeur, toute sa grâce, guérir le monde et payer le prix pour nos péchés. Et donc, même dans l'Ancien Testament, il prend plaisir à la chesed, à la bienveillance. Et à côté de la bienveillance, il y a une autre chose. Il aura encore compassion de nous. Compassion. Ce mot, c'est rechem en hébreu. Et rechem, c'est la matrice d'une femme. Cette compassion qui, comment je peux dire ça, tu sens l'amour pour l'autre, tu veux l'aider. Et Dieu, il est comme ça. Un amour indestructible. Il nous aime dans ses tripes, quoi. Il aura encore compassion de nous. Et là, le juif, il doit être réconcilié, là. Et mettre nos fautes sous nos pieds. Et après, tu jetteras, le mot là, c'est taslik. Et donc, cette cérémonie s'appelle la cérémonie de taslik. Taslik, on vide les poches. Et taslik, ça vient de ce verbe, tu jettes. Tu jettes loin de toi. Parce que ce n'est pas la peine, par la religion, de dire, oh Jésus, pardonne-moi, mais tu les gardes dans tes poches. Moi, je vois les gens, ils sont toujours en train de se flageller, mais ils ne vident jamais leurs poches, ils gardent leurs péchés. Mais le sang de Jésus est efficace. Jette tes péchés loin de toi. Si les Juifs le font, encore plus nous, nous devons le faire. Parce que nous, on a beaucoup plus qu'un agneau maintenant. Nous, on a l'agneau de Dieu. Un seul sacrifice pour tout le temps. Le sang de Jésus. Et donc, nous, on peut jeter loin de nous, au fond de la mer, tous leurs péchés. C'est peut-être la réalité tachlique de cette sainte scène, où on n'est pas devant la mer, mais on est devant ce flot, cet océan de grâce, ce sang de Jésus, où on peut jeter loin de nous nos péchés. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la vérité ou de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis. Dieu l'a juré, c'est la nouvelle alliance, c'est un serment de grâce. Et c'est ça Dieu, c'est vraiment un serment de grâce. Et donc pour les Juifs, ils commencent une nouvelle année avec la liberté, la grâce, l'amour, la vérité, la compassion. Et je vous souhaite aussi, c'est pas encore le 1er janvier pour nous, mais on a un peu la rentrée. Tu sais, on a la rentrée et moi j'aime bien le Rosh Hashanah parce que je pense que, je sais pas comment je peux décrire ça, j'ai une sorte d'intuition spirituelle en moi, et sans savoir que c'était Rosh Hashanah, pendant 2 semaines, Dieu il me demande de régler certaines choses dans ma vie. Et donc j'avais vécu un certain temps de repentance, et maintenant, aujourd'hui, je sais que voilà, je me sens libre pour recommencer une nouvelle année. Et donc... J'écoute sur YouTube pas mal de rabbins. Et il y a un rabbin qui est très célèbre en Angleterre, il s'appelle Jonathan Sacks. Et lui, il disait, comment est-ce qu'on peut bien vivre sans Rosh Hashanah? Et là, il donnait 7 choses. Je ne vais pas faire les 7 choses, mais il y avait une chose qui m'est allée droit au cœur pendant ces dernières 2 semaines. Et il parlait, il dit, il ne faut pas pratiquer le lâchant Ara, il parlait hébreu, lâchant Ara. Donc c'est quoi lâchant Ara? Bon, le lâchant, c'est la langue, lâchant en hébreu. Et Ara, c'est le mal. Et donc lâchant Ara, c'est la mauvaise langue. Et il dit, voilà, il faut vider tes poches de toutes les mauvaises paroles que tu as dites pendant l'année. Toutes les trucs. Et ce n'est pas juste des mensonges que tu as dit sur quelqu'un. Là, c'est un autre nom en hébreu. Mais c'est des vérités que tu n'aurais pas dû colporter. Même des vérités sur quelqu'un d'autre, des vérités qui t'ont frustré. Et paf, moi je connais ça très bien. Hein. Moi, dans ma langue, il y a la puissance de la vie. J'espère que je vous donne une petite puissance de vie ce matin. Mais lui aussi, si j'insulte quelqu'un, waouh, j'ai une puissance de mort aussi. Ou si je répète quelque chose, ou si je brode autour de la faiblesse d'un frère ou une sœur, oh là 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 là, ça peut faire mal. Et donc le Seigneur me montrait le doigt cette semaine, ces dernières 2 semaines. Et il dit, Robert, plus de lâchant. Ara, plus de mauvaise langue. Et tu sais, il y a une lettre qui est très, très juive dans le Nouveau Testament, c'est la lettre de Jacques. Jacques était vraiment un pilier de l'Église, mais il était bien juif. Et en chapitre 3 de Jacques, il parle de la modération dans l'usage de la parole. Et là encore, j'ai été un peu, ça m'a aidé à repentir, à penser autrement quand j'ai lu ce passage. Bon, c'est un passage bien connu, mais ça parle de comment bien parler. Et bon, je vais juste le lire, hein. C'est les premières 12 versets de l'épître de Jacques, la lettre de Jacques. Et c'est une chose à travailler pour vivre une bonne Rosh Hashanah. Et moi, ce soir, je pense que je vais vider pas mal de choses de mes prochains. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Et donc là, le docteur, c'est celui qui partage. Voilà, j'exprime, je donne. Et je suis un docteur, hein, depuis, c'est pas 35 ans, Dieu m'utilise, je suis envoyé à droite et à gauche dans des grandes réunions, des petites réunions. Et là, je parle. Et Dieu dit, mais si tu as un homme qui parle, si tu as quelqu'un qui parle, et quand tu es plus âgé, tu as une plus grande responsabilité aussi. Parce qu'on est tous les pères, les femmes âgées, les mères, tout ça. On a une autorité de parole. Et donc, nous serons jugés plus sévèrement par rapport à notre connaissance, par rapport à tout ce qu'on doit savoir. Et donc, moi, je veux être un bon docteur. Et donc, il dit, si tu veux être un bon docteur, pas docteur en médecine, mais docteur dans la parole, il faut vraiment savoir gérer ta parole. Et après, il continue, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Waouh ! C'est de dire, voilà, je garde ma langue. Je suis attiré vers une perfection. Bon, on ne l'aura pas sur la terre, mais on peut être attiré par le Saint-Esprit, de vivre bien, ne pas dire n'importe quoi. Il est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Tu vois, là, la petite chose-là, ça dirige beaucoup. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu pour embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Et écoutez bien ce qu'il dit maintenant. Elle souille tout le corps. Wow. Là, ici, j'ai la capacité de me verser un tas de souris mortes dans ma poche. Là. Après d'avoir des asticots et d'être toute... d'être souillé. Si plus tu dis de mauvaises paroles, tu... Je ne sais pas si tu as jamais été dans des conversations où on a critiqué, on a fait, et tu sors de ça et tu dis, mince, je me sens sale. C'est comme si tu étais dans un café et tout le monde fume, et tes vêtements après, mince, ça pue la fumée. Et quelquefois, ça pue la calomnie. Ça pue la moquerie, ça pue la destruction de l'autre par la parole. Et là, on a besoin de laver ses vêtements. Mais parce que, oh, j'ai pas volé, j'ai pas tué, je suis bien. Mais bon, allez, ça c'est grave. Pour les Juifs, le péché de la langue était très 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 sérieux pour eux. Et ils disaient que c'était comme le lèpre. Ils disaient que c'est ce que Myriam avait quand elle critiquait Moïse. Et donc, ça souille tout le corps et embrase tout le corps de l'existence. Et après, une chose terrible, il parle de la langue, il parle de ta langue. Embraser, qu'elle est par la géhenne, hein? Provenant de l'enfer même, ça peut être une autre traduction. Et donc là, il y a une racine à ta langue. Il y a une racine vers le ciel. Et tu peux tirer la bonne sève du ciel avec une bénédiction, avec une proclamation de vérité, avec un encouragement. Voilà, je t'aime. Tu iras loin. C'est bien. Allez, tu es précieux. Tu as beaucoup de talent. Tu vois, tu peux choisir de voir le positif et d'encourager avec la langue, de bénir. Et quand tu fais ça, tu as la sève qui monte qui descend du ciel, je dirais. Ou tu peux tirer ta langue de l'enfer. Et quelquefois, les gens disent, est-ce que j'irai à l'enfer? Bon, il y a des gens qui sont déjà par leur langue en enfer. Et Jésus aussi, hein, il a cité ça quand tu vois Matthieu 5. Matthieu 5, 22. Il parle des béatitudes, il dit, tu avais entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Oh, je n'ai jamais tué. Hein? Tu ne commettras pas de meurtre. Ça, c'est dans la loi, les 10 commandements. Oh, je garde les 10 commandements. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. On est tous d'accord. Mais moi, Jésus qui parle, petit gentil Jésus, mais il voulait la vérité au fond du cœur. Il ne dit pas ça pour condamner, mais pour améliorer. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, raca. Bon, raca, on ne sait pas ce que ça veut dire. On pense que ça veut dire homme de rien. Mais c'est une manière de détruire l'autre, de l'annihiler par tu n'existes pas, je suis meilleur que toi, je domine sur toi. T'es rien. Et on a tous reçu des paroles comme ça, des insultes. C'est comme une langue qui veut nous balayer notre existence. Et Jésus, il est en colère contre ça. Il faut celui qui dira à son frère ou à sa sœur. C'est en famille que ça se passe aussi, cette destruction. Il dit, raca, il sera justiciable du sang édrin. Bon là, il n'y a pas beaucoup de sang édrin maintenant. Deuxième parole, celui qui lui dira insensé. Oh, mais c'est pas grave, hein, t'as pas dit un gros mot là, insensé. Et encore là, je suis meilleur que toi, je suis l'intelligent, tout l'orgueil de la langue, qui dit insensé sera passible, et regarde ce qu'il dit, sera passible de la géhenne du feu. Waouh, c'est la même chose là. Il dit ne laisse pas ta langue être attachée à l'enfer, à la géhenne. Ça, c'était la poubelle, la géhenne. C'était la vallée de Ben-Hinnom. La vallée de Ben-Hinnom. Et c'est là où on jetait toutes les immondices. C'est là où on jetait les bébés morts. C'est là où on jetait des choses horribles, les corps des criminaux. Et c'était, on brûlait tout ça. Et donc, cette vallée de géhenne, c'est comment on traduit l'enfer dans nos Bibles modernes. Mais c'est un lieu d'immondice, c'est une poubelle. Et moi, je ne veux pas une langue poubelle. Je ne veux pas avoir une langue poubelle. Je veux avoir une langue plus belle. Plus belle, qui dit des choses belles sur mes frères et sur mes sœurs. Et donc, Seigneur, viens à notre secours. Jacques 3 encore. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Non, aucun homme ne peut la dompter. Mais Jésus-Christ l'a domptée sur la croix. Jésus-Christ, en te remplissant du Saint-Esprit, il peut dompter ta langue. Il peut dompter ta langue. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, qui n'a pas vécu ça? Qui n'a pas vécu ça? Surtout les docteurs. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Moi, j'aime bien bénir Dieu, louer, prêcher. Et après, tu rentres à la maison. Tu es un peu fatigué, tu es un peu énervé, tu vas... Et tu dis, mais ma même langue, je viens de bénir, et là je viens de critiquer. Je viens de maudire quelqu'un. Oh, je ne l'ai pas maudit. J'ai juste dit qu'il était... Non, d'accord. Tu n'as pas fait la magie. Oh, non, ce n'est pas un sortilège, mais tu l'as quand même maudit, tu l'as dénigré, tu as dit, il est insensé, il est rien, moi je suis meilleur, et tout le reste. C'est un mal. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et après, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, surtout dans l'Église, surtout avec les frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Et donc, Seigneur, quand je vide ma poche là, ce soir, je vais dire, Seigneur, fais de moi une source d'eau douce. Seigneur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et que je n'ai pas une abondance de blessures, de souris mortes, de tous ces trucs-là, mais je vide mes poches et que je me purifie. Seigneur, que je sois une source d'eau douce et que je puisse bénir, que je puisse être un docteur qui parle. Et tu dis, mais là, quand il parle, là, il y a la pureté et il y a la bénédiction sur ses lèvres. Et donc là, j'ai été, comme on dit poliment en français, vachement travaillé cette semaine par rapport à ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi vraiment à donner moi la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour vraiment avoir une source d'eau vive en moi, Seigneur, quand je parle. Et alors là, c'est le côté un peu mauvaise nouvelle. Pensez autrement. Je ne vous juge pas, mais chacun leur part. Mais il y a une très bonne nouvelle. Parce qu'on continue, c'est le psaume 34, 13. Et j'ai fait deux choses positives maintenant. Hein. C'est souvent, on vide. Mais maintenant, voilà, dans les psaumes, hein, les psaumes de David, il y a le psaume 34. Le bon juif aujourd'hui, il va dire Shana Tova, Shana Tova, mais il va aussi dire Ketiva va Hatima Tova. Ketima va Hatima Tova. Et ça veut dire que tu aies une bonne inscription et un bon sceau, et après, entre parenthèses, dans le livre de vie. Parce que dans ce temps de jugement, de penser autrement, le but, c'est d'être inscrit dans le livre de vie. C'est d'être inscrit dans le livre de vie, indéliblement. Et c'est ce que Jésus a fait. Nous, on est justifiés par la foi. Si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu crois de tout ton cœur qu'il est mort sur la croix pour toi, si tu te détournes de tes péchés, tu peux dire, Seigneur, je te reçois dans mon cœur aujourd'hui. Après, tu peux passer par les eaux du baptême, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais on est sauvé par la foi. Les Juifs, qui croient, ils doivent faire un tas d'œuvres. Mais nous, on est sauvé par la foi. Mais c'est aussi une grâce, c'est un cadeau gratuit que Dieu nous donne. Et on est inscrit dans le livre de vie par la foi en Jésus-Christ. Et personne ne peut nous effacer après. Mais est-ce que ton nom est bien inscrit? Et les Juifs, c'est leur but, hein. Et quand tu lis en Apocalypse, Jean, il parle de ça. La fin de la Bible parle de tous ceux qui étaient inscrits. Et il y avait ceux qui n'étaient pas inscrits. Ceux qui n'étaient pas inscrits, qui étaient des incrédules, des lâches, toutes sortes de choses. Mais là, que ton nom soit bien inscrit, qu'il y ait un bon sceau là, dans le livre de vie. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, soyez bien écrit. Et peut-être il y a tout un chapitre aussi après ton nom. Mais Seigneur, qu'il y a que il n'y aura pas des mauvaises histoires dans le ciel. Dieu va même oublier tes fautes. Alléluia. Tu n'auras que des choses que tu as bénies, tous les fruits d'un ministère positif. On ne va pas écrire toutes les horreurs. Dieu réécrit l'histoire par la grâce et par son sang. Mais voilà, pour être bien écrit dans le livre de vie, psaume 34, 13. Moi, j'aime bien ce verset. Hein. Quel est l'homme ou la femme qui désire la vie? Hein, qui désire la vie? Moi, je désire la vie, Seigneur. Je veux être heureux, je désire la vie. Qui ne désire pas la vie? Quel est l'homme qui désire la vie? Après, il continue. Qui aime de longs jours pour voir le bonheur? C'est moi, Seigneur. Est-ce que vous êtes cet homme, cette femme ce matin qui veut voir le bonheur? C'est pour ça que je partage ce matin, je vais vous donner les clés de bonheur, pas de vous condamner. Et donc, pour voir le bonheur, qu'est-ce qu'il dit, verset 14? Préserve ta langue du mal, lâchant avant. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche le shalom, la paix, et poursuis-la. Poursuis Jésus. Jésus est maintenant le shalom incarné. Poursuis Jésus. Poursuis Jésus par le Saint-Esprit. Poursuis Jésus. Préserve ta langue du mal. C'était déjà la prière. Et encore, je peux dire, Seigneur, oui, garde ma langue, préserve ma langue du mal, pour que je sois bien écrit dans ce livre de vie. Et après, le psaume 19-15, peut-être c'est notre dernière prière. Il y a un petit chant avec ça aussi. Hein. Reçois favorablement les paroles de ma bouche.
Seigneur,
reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Et je pense que ça, c'est peut-être une prière que je vous donne. Quelquefois, ce n'est pas toujours facile à prier. On ne sait pas que prier, le Saint-Esprit nous inspire des prières. Mais là, tu peux, peut-être cet après-midi ou ce soir, on vit dans tes poches. Allez allumer dans l'évier. Ce soir, chez toi, tu mets de l'eau, et, symboliquement. Et après, tu peux juste dire, reçois favorablement les paroles de ma bouche. Et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur, celui qui me rachète, avec plus que l'eau qui coule, avec son sang qui est là, pour nous purifier de toutes nos mauvaises paroles. C'est quelquefois nos paroles nous ont créé une si mauvaise destinée. C'est comme cette petite gouvernail, ça dirige, où on a laissé une petite étincelle de critique, de médisance dans la famille. Et pff, il y a des histoires de famille, pas possible, blablabla. Il y a tout un... J'étais il y a quelques jours, tu sais, on fait des rassemblements familiaux. Oh, quelquefois, non, je ne parle pas à toi. Et tu vois, tout est prêt à être embrasé. Et c'est tellement simple. Tu dis, oh, mais lui, il doit changer avant. Non, toi, tu changes. Toi, tu changes. Ah, lui, il doit changer. Si lui, il me dit pardon, je lui dis pardon. Non, mais toi, tu changes. Deviens le changement toi-même que tu veux voir chez l'autre. Deviens le changement en toi-même, premièrement, que tu veux voir dans le monde. C'est ça. Deviens toi-même le changement. Deviens toi-même la solution. Et surtout dans la solution de la parole. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Et donc après, ils vont vider leurs poches. Et comme tout bon juif et bon être humain, ils vont faire un bon repas après. Ils vont faire un bon repas. Et nous, on a fait un bon repas, mais quand tu vois les juifs, ils ajoutent plus que juste ça et un peu de vin. C'était vraiment le... C'était leur repas de rédemption est magnifique. Et dans toute leur fête, il y a la joie. Parce que tu sais, être, comment je peux dire ça, être rempli de Dieu, être pur, ça te procure vraiment une magnifique joie. Tu vois, péché, Pécher, c'est se tromper de bonheur. Pécher, c'est manquer le but. C'est se tromper de bonheur. Et donc, même si tu es un grand pécheur, tu n'étais pas loin du bonheur. Ça veut dire que tu as beaucoup de patience, tu as beaucoup d'énergie pour faire les mauvaises choses. Et même si tu parles mal, mais gloire à Dieu, parce que ça veut dire que tu as un potentiel en toi de bien parler. Pécher, c'est se tromper de bonheur. Et donc, quand tu fais Rosh Hashanah, c'est pour être sur le bon chemin encore. Ne plus se tromper, de voir des bons signes et de dire, voilà, je veux avoir de longs jours remplis de bonheur. Préserve ta langue du mal. Sois sur le bon chemin. Ne te trompe plus. Suis Jésus. Ne te trompe plus. Ne sois plus sur le mauvais chemin, mais sur le bon chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus. Et donc voilà, ils vont faire un bon repas. Voilà, ils vont être en famille, ça va être là. Voilà, la communion fraternelle, tout ça. Et à un moment donné, ils vont manger beaucoup de miel. Et ils vont manger les pommes. Et voilà, ils vont faire ça parce qu'ils disent, si je mange quelque chose de doux, ça va me donner une année douce. Une année riche en douceur, en bonheur. Surtout la douceur de la langue. Donc, ce soir, vous videz vos poches et après, vous allez manger un peu de miel et vous allez croquer dans une bonne pomme et vous allez dire... 2018-19, ma rentrée va être une rentrée remplie de douceur. Remplie de douceur. Parce que tu sais, on veut tous vivre avec les hommes et les femmes doux, n'est-ce pas? On ne veut pas vivre avec des ours. On ne veut pas vivre... Tu vois, des gens qui ne peuvent pas dire une parole gentille. Non, mais c'est quoi ça? Oh, des grands... dans l'église, tiens, ils sont, c'est, oh, c'est pire que, c'est pas quoi, Terminator, tu vois, et donc là, on veut vivre avec les paroles douces, on peut pas vivre sans ces paroles, et même ce matin, j'espère que, d'un côté, il y a une petite parole de correction dans ce que je dis, mais j'espère que c'était pas pour condamner, mais c'est pour nous libérer, tu sais, il faut pratiquer la douceur, pratiquer la douceur, et donc, bien manger. Et donc là, nous, on a beaucoup plus que juste... Il faut le faire, hein. C'est bon le miel, c'est bon la pomme. Vous pouvez le faire ce soir. Mais ma vraie pomme et mon vrai miel, c'est je lèche la parole. C'est bon. Et si tu veux avoir une bonne langue, lèche la parole de Dieu. Tu sais, les Juifs, dans la tradition encore, je termine avec ça, quand ils avaient un bébé qui grandissait vers 2 ans, 3 ans, tu sais, ils aiment tellement la parole, le Torah, les Juifs. Et ce qu'ils faisaient, ils prenaient le livre de la purification, c'est le Lévitique. Et sur ce livre de Lévitique, c'était un parchemin, là, tout un rouleau. Ils prenaient le rouleau et ils mettaient du miel sur le rouleau. Vraiment, ils mettaient du miel. Et après, ils mettaient ça vers la bouche du petit de 2 ans. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas lire, mais ils savaient lécher. Et pour eux, c'était symbolique de cette entrée dans la purification de la parole. Et si vraiment vous voulez garder, préserve ma langue, Seigneur. Lèche la parole. Prends un temps avec la parole de Dieu chaque jour. Lèche la parole, parce que la parole te présente Jésus. La parole te purifie. La parole va mettre plus de racines à ta langue vers le ciel et moins vers l'enfer. Et donc, je vous souhaite Shana Tova, bonne année, et que vos noms et surtout vos langues soient bien inscrits dans la livre de vie. Amen.